Alors, ça fait 3 semaines maintenant, enfin c'est la troisième semaine que nous nous intéressons au psaume 50. On a commencé il y a 2 semaines à étudier ce psaume. On a vu les versets 1 à 6 dans un premier temps. La semaine dernière, on a vu les versets 7 à 15. Et avec cette problématique générale que je vous avais expliquée, hein, ce psaume est écrit par un certain Asaph qui était responsable, qui avait des responsabilités en tout cas dans l'organisation du culte de son époque. Asaph était donc bien au fait de la façon dont les gens rendaient un culte à Dieu à son époque. Son époque, c'était à peu près 1000 ans avant Jésus. Asaph, en tant que spécialiste de ce domaine, quelque part, il a remarqué qu'il y avait un problème dans la façon dont les gens rendaient un culte à Dieu. Et il aborde ce problème dans ce psaume. Et en gros, ce qu'il veut nous montrer c'est dans ce psaume, c'est qu'est-ce que ça veut dire adorer pour de vrai. Parce que beaucoup de gens peuvent prétendre adorer Dieu. Mais peut-être que c'est pas le vrai Dieu. Ou peut-être qu'ils adorent, mais pas comme Dieu le souhaite. Et donc, il veut nous montrer qu'est-ce que ça veut dire qu'adorer pour de vrai. Et on s'était fait la remarque que d'ailleurs, dans nos cultes à nous aujourd'hui, donc si Asaph c'était 1000 ans avant Jésus, nous c'est donc 3000 ans plus tard, n'est-ce pas, que nous rendons toujours un culte à Dieu. Dans nos cultes aussi, des fois on a l'impression que c'est un peu machinal, ou que ça sonne creux, ou que finalement qu'on fait les choses par habitude, par tradition. Et que ça manquait un peu de vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour réinsuffler de la vie dans nos cultes? On s'était posé ce genre de questions. Et c'est ce genre de questions que se pose Asaph, que pose Asaph en tout cas, dans ce texte. Et on a vu déjà, au cours des 2 derniers dimanches, que la réponse qu'Asaph apportait à cette question n'était pas forcément celle qu'on aurait imaginée. La première chose qu'Asaph veut que son auditoire fasse pour adorer pour de vrai, c'est d'abord se souvenir de qui est Dieu. Ce souvenir de qui est Dieu, qui est l'objet, qui fait l'objet de notre adoration. Et le Dieu de la Bible, c'est pas n'importe qui. Et déjà, dans les 6 premiers versets de son psaume, Asaph nous replace devant ce Dieu, qui est un Dieu finalement assez terrible, assez terrifiant, un feu dévorant, dit-il. Autour de lui, une violente tempête. Et en même temps, il a affirmé qu'il y avait une relation possible avec ce Dieu, grâce à son alliance. Okay. Dans un deuxième temps, la semaine dernière, on a vu que Asaph nous invitait non pas à faire des choses pour Dieu, c'est-à-dire non pas à offrir des sacrifices, à faire un culte hyper bien organisé, c'est-à-dire non pas à s'attacher à ce qui est apparent, mais plutôt à quelque chose qui est caché. Et ce que Dieu attend de son peuple, c'est pas tant quelque chose de formel, une espèce de religiosité très belle, très étincelante. Ce que Dieu attend de son peuple, c'est d'abord qu'il offre la reconnaissance, qu'il soit reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple? Il a rendu la relation possible, tout simplement. Asaph nous a fait comprendre la semaine dernière que il n'y a rien que nous, on puisse apporter à Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse lui offrir. Il n'y a aucun service qu'on puisse lui rendre. Puisque lui est Dieu, il est propriétaire de l'univers, il est même propriétaire de notre vie. La seule personne en mesure, en position d'offrir quoi que ce soit dans cet univers, c'est Dieu, puisqu'il est le seul qui possède quoi que ce soit. Et il a offert le plus cher, le plus précieux, pour établir, pour rétablir une relation avec les êtres humains. Ce qu'il a offert, c'est son propre Fils, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, en réponse à cette grâce de Dieu, Dieu veut que nous lui offrions simplement la reconnaissance, que notre culte soit l'expression de notre reconnaissance. En fait, pas juste notre culte, mais notre vie tout entière. Dieu veut que nous vivions une vie reconnaissante à Dieu. Et c'est cette reconnaissance à Dieu, cet amour en retour de son amour qui a le potentiel de transformer ensuite tout ce qu'on fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui, dans la suite et la fin de ce psaume, versets 16 à 23. Alors, dans cette partie du psaume, Asaph va dire des choses qui sont pas très agréables à entendre. Et en effet, ce qui préoccupe Asaph, c'est l'hypocrisie du peuple, qui est à la fois capable de rendre un culte hyper sophistiqué, offrir tous les sacrifices au bon moment, comme il faut, dire les bonnes prières, réciter les commandements, et puis à côté de ça, qui sont moralement laxistes. Et c'est ça le problème qu'on va aborder ce soir, et où on va voir que ce que Asaph veut nous faire comprendre, c'est qu'adorer pour de vrai, c'est d'une part se souvenir de Dieu, d'autre part offrir la reconnaissance, mais troisièmement, aujourd'hui, c'est aussi veiller sur sa voix. C'est aussi veiller sur sa voix. Alors imaginez, avant de lire le texte, imaginez qu'au détour d'une conversation avec un collègue au travail, vous découvrez qu'il va à l'église le dimanche. Ah. Alors vous avez vos antennes évangéliques qui se mettent à vibrer. Il va à l'église le dimanche, tiens, tiens. Il lit la Bible. ça alors? Un collègue qui lit la Bible. Tiens, alors vous discutez avec lui et vous découvrez qu'il est protestant. Non seulement ça, mais il va à une église évangélique. Non seulement ça, mais vous allez boire le café avec lui, vous discutez un peu plus et vous apprenez qu'il croit effectivement que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est mort pour ses péchés. Mais arrive la fin du monde et vous vous retrouvez au ciel ce jour-là et vous avez beau chercher, vous n'arrivez pas à trouver votre collègue au ciel. Vous n'arrivez pas à le trouver. Il n'est pas là, apparemment. Alors vous allez vous renseigner auprès de l'ange Gabriel. Comment ça se fait que mon collègue n'est pas là? Je le trouve nulle part. Et là, Gabriel pourrait peut-être vous rappeler cette parole. Cette parole de Jésus. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça alors. Mais je croyais qu'on était sauvés par grâce. Je croyais qu'on n'était pas sauvés par les œuvres, mais précisément par la grâce. Et ce texte, Jésus ici dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, entrera dans le royaume des cieux. Ça alors. Comment comprendre ça? Et Gabriel pourrait peut-être vous répondre, mais est-ce que tu as lu le psaume 50, par exemple? Est-ce que tu as lu cette multitude d'autres passages, finalement, dans la Bible, qui montrent que les œuvres, en réalité, font partie intégrante de la vraie foi? Autrement dit, que la foi sans les œuvres, comme dit l'apôtre Jacques, est morte en elle-même. C'est-à-dire, si vous avez une foi, mais qu'il n'y a pas les œuvres qui en découlent, ça veut dire que ce n'est pas une vraie foi. Ce n'est pas la foi. Les œuvres font partie intégrante de la vraie foi. Alors on va lire le texte, après on va prier, puis on va regarder tout ça dans le détail, d'accord? Je lis du début, hein, comme ça on a tout le contexte, et puis on lira jusqu'à la fin. Psaume d'Asaph. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux annonceront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, ni des boucs de tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il remplit. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue tisse la tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi, mais je vais te faire des reproches, et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai contempler le salut de Dieu. Prions avant d'aller plus loin. Merci Seigneur pour ta parole, qui est riche. Et tantôt, elle nous dit des choses qui sont parfois pas très agréables à entendre, et nous en avons besoin, Seigneur. Donne-nous simplement des oreilles attentives, s'il te plaît. Et dispose notre cœur à recevoir tout ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tout ce que Asaph veut nous faire comprendre ici, c'est que le laxisme moral est incompatible avec la vraie foi ou la vraie adoration. Adorer pour de vrai implique de veiller sur sa voix. Et la première affirmation qu'on a dans ce texte, versets 16 à 20, c'est la suivante. Ne sois pas hypocrite. C'est la première leçon qu'Asaph veut nous faire comprendre au verset 16 à 20. Ne sois pas hypocrite. L'hypocrisie est plus grave qu'on ne le croit. Alors, vous avez vu, verset 16, le psalmiste décrit ici des gens qui ont l'air très, très pieux. On a déjà remarqué ça dans le texte. Hein. Ils ont un culte très bien organisé. Ils sont même dévoués au temple. Ils connaissent bien la parole de Dieu. Ils connaissent les commandements. Ils les connaissent par cœur, nous dit Asaph. Ils énumèrent mes prescriptions. Ils professent la foi. Ils ont l'alliance de l'Éternel à la bouche. Ce sont des gens apparemment très pieux, très consacrés, n'ont pas honte de se dire croyants, ils sont même peut-être fiers de se dire « Nous, on est des Israélites, on appartient à l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. » Et pourtant, Dieu émet un jugement sévère. Vous avez remarqué comment il aborde cette partie du psaume, le psalmiste ici, Asaph, il dit « Dieu dit aux méchants, ce sont des méchants qui énumèrent les prescriptions de Dieu, des méchants qui ont l'Alliance de l'Éternel à la bouche. » Et s'ensuit une explication, hein. Ces gens-là, pourquoi sont-ils appelés des méchants alors qu'ils ont une apparence de piété? Pourquoi sont-ils des méchants selon Dieu? Parce que, dit-il, ils détestent l'instruction. Ils jettent les paroles de Dieu derrière eux. Autrement dit, il y a un décalage entre leur profession de foi et leur vie. Un décalage entre ce qu'ils disent croire et la façon dont ils mènent leur vie, la façon dont ils se comportent. Ils disent être en alliance avec le Dieu très saint, et pourtant, nous dit le texte, ils apprécient la compagnie des voleurs, hein, verset 18. Même l'adultère, sans qu'ils s'en rendent coupables eux-mêmes, ne leur pose pas trop de problèmes. Hein, ta part est avec les adultères. Ils connaissent les saints commandements de Dieu, hein, ils les énumèrent, et pourtant, ils sont permissifs, surtout vers la fin de la liste des 10 commandements. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il s'agit, quand on parle du vol, verset 18, de l'adultère, verset 18 toujours, du mensonge, de la tromperie, verset 19, ce sont les 7e, 8e et 9e commandements. Finalement, des commandements qui apparaissent un peu vers la fin de la liste, des commandements qui pourraient nous apparaître peut-être moins importants puisqu'ils viennent en dernier. C'est une religion de la tête, mais pas du cœur, qui nous est décrite ici. De la tête, pourquoi? Parce qu'ils connaissent bien intellectuellement la parole de Dieu, ces gens-là. Mais en ce qui concerne ce qu'ils vont appliquer, eh bien, ils font leur choix. Ils font leur choix. Il y a des choses qu'ils vont appliquer et d'autres qu'ils ne vont pas appliquer. Ils piochent. Ils filtrent la parole de Dieu. Imaginez, et ça c'est un affront terrible pour Dieu. Imaginez que vous alliez manger chez Bocuse. Alors je sais qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a mangé chez Bocuse il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas vous dire qui. Et imaginez que vous alliez manger chez Bocuse. Bocuse, si vous ne le connaissez pas, c'est probablement un des meilleurs chefs cuisiniers de la planète. Et il est lyonnais, normal. Alors vous allez chez Bocuse, vous commandez le menu à 230 euros. Le genre de menu où à chaque fois que vous avalez, vous avez 15 euros qui sont débités de votre compte en banque. Et imaginez que vous êtes là devant cette table magnifiquement mise, bien décorée, et des plats superbement présentés, superbement préparés d'ailleurs. Et là, vous mangez un petit peu, puis après vous en prenez une autre partie, vous la jetez par-dessus l'épaule. Ou vous la laissez sur le bord de l'assiette. Qu'est-ce que ça transmet comme message au chef, à Bocuse, au chef cuisinier? Qu'est-ce que ça lui transmet comme message? Du dédain, du mépris un peu pour son travail, qui pourtant était un travail excellent. Ben avec Dieu, c'est un peu la même chose. Hein. Quand on fait son choix dans sa parole, c'est le même mépris qu'on lui oppose que celui que vous opposeriez à Bocuse si vous faisiez cela dans son restaurant. Vous prenez une partie de la parole de Dieu, parce que ça vous plaît, puis d'autres parties qui vous plaisent moins, vous la jetez par-dessus votre épaule. C'est exactement ce qui se passe dans ce texte. Hein. Toi qui jettes mes paroles derrière toi. Toi qui détestes l'instruction. Mais filtrer la parole de Dieu, faire son choix dans la parole de Dieu, la censurer quelque part, c'est encore plus grave que ça. Parce que quand on pioche dans la parole de Dieu ce qui nous convient, et quand on y laisse ce qui nous plaît, on laisse dans la parole ce qui nous plaît, En fin de compte, on est en train de façonner un Dieu à notre image, selon nos préférences, n'est-ce pas? Et vous savez ce qui finit par se produire? Si on façonne un Dieu à notre image, selon nos préférences, selon nos conditions, on finit par adorer un mauvais Dieu. Enfin, c'est pas le bon Dieu qu'on finit par adorer. On finit par adorer un Dieu imaginaire, qui n'est pas le vrai Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez déjà été pris pour quelqu'un d'autre dans la vie? Moi, il m'a déjà été pris plus d'une fois, il m'est déjà arrivé d'être pris plus d'une fois pour un vendeur dans un magasin. Vous voyez, je suis à Auchan en train de regarder des choses dans les rayons et il m'est déjà arrivé d'être pris pour un vendeur par une personne et qui vient et qui me demande un renseignement sur un produit. Mais en dépit de la plus profonde conviction de la personne qui m'adresse la demande, je ne peux pas la renseigner parce que je ne suis pas qui elle croit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça avec Dieu, vous avez beau avoir toute la foi du monde, si c'est pas le bon Dieu, il fera rien pour vous. Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri des malades, etc. C'était ça l'objection dans cette histoire dans Matthieu chapitre 7 où Jésus nous rappelle qu'il ne suffit pas d'appeler Jésus notre Seigneur. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors, je leur déclarerai, dit Jésus, je ne vous ai jamais connu. C'était pas moi. C'était peut-être mon nom que vous avez invoqué, mais c'était pas moi. Je ne vous ai jamais connu. En fait, quand on pioche dans la parole de Dieu, on n'est pas en meilleure posture qu'un athée ou un musulman ou un hindou, enfin quelqu'un qui rend un culte à un autre Dieu. Hein. C'est pour ça que je disais que la première chose que Asaph veut nous faire comprendre dans ce passage-là, à partir du verset 16, c'est que l'hypocrisie est vraiment plus grave qu'on ne le croit. Et mes amis, si votre Dieu, c'est un Dieu qui ne voit pas d'inconvénient à ce que vous trichiez à vos examens, ben je peux vous dire que ce n'est pas le vrai Dieu. Si votre Dieu ne voit pas d'inconvénient à ce que vous falsifiez votre déclaration d'impôt, je peux vous dire que ce n'est pas le vrai Dieu que vous servez. Si votre Dieu ne voit pas d'inconvénient à ce que vous couchiez votre petite amie avant le mariage, c'est que ce n'est pas le vrai Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était la première chose. Ne sois pas hypocrite. Mais deuxièmement, verset 21, reconnaître ta misère. Reconnaître ta misère parce que, en fait, nous sous-estimons le péché dans notre vie. Nous sommes égocentriques et le problème, c'est que nous ne nous trouvons pas si mal que ça. Les croyants dont il est question dans ce texte, comme je le disais tout à l'heure, ils n'étaient pas coupables de meurtre, ils n'étaient pas coupables de blasphème, ils n'étaient pas coupables d'avoir enfreint le sabbat, ils n'étaient pas coupables d'idolâtrie, ils n'étaient pas coupables d'adultère, même s'ils appréciaient la compagnie de gens qu'ils étaient. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'étaient pas des gens qui avaient une vie complètement décadente. C'était des gens bien élevés. Et ils ne se trouvaient pas si mal que ça, ces gens. Et nous, c'est la même chose aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des meurtriers parmi nous, j'en sais rien. C'est possible. Mais on ne se trouve pas si mal que ça, au fond. Et c'est ça le problème. On est égocentrique et on ne se trouve pas si mal que ça, au fond. Et quand on est dans cette posture-là, on se met facilement à refuser d'appeler péché ce qu'il est en réalité dans notre vie. Ce qui est en réalité péché dans notre vie. Et le symptôme de ce grave danger apparaît lorsqu'on se met à lire la Bible d'une façon qui amoindrit l'étendue du péché dans notre vie. Lorsque nous comprenons la Bible comme disant que Dieu n'est pas si exigeant que ça. Verset 21. Voici ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi. On a dit, ces croyants, ils ne font pas des choses qui paraissent hyper graves. Et au bout du compte, ils ont commencé à se dire, mais Dieu n'est pas si exigeant que ça. On peut bien faire des écarts, des péchés mignons, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est quoi? Et c'est à ça que Asaph veut nous rappeler. C'est à ça qu'il veut nous ramener. C'est que le péché est bien plus étendu que nous ne voulons le croire, et bien plus grave dans notre vie, dans votre vie. Et dans la mienne. Ce qui est reproché à ces croyants, on l'a dit, c'est pas si grave à nos yeux, mais aux yeux de Dieu. Ils sont apparemment remplis de péché. Verset 21, je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. Tu vas voir un jour combien le péché dans ta vie, toi qui penses que c'est pas si grave, combien en réalité il est grave à mes yeux, dit Dieu. Un jour, je vais tout mettre devant tes yeux. Je vais te faire des reproches. Voyez, ces croyants ont une opinion trop élevée d'eux-mêmes et ils n'ont pas la bonne compréhension de ce qu'est le péché. Et c'est pour cette raison que dans la première partie de ce psaume, Asaph a voulu nous replacer devant qui est Dieu et son côté un peu terrible et terrifiant pour que nous puissions, à la lumière de la sainteté de Dieu, comprendre combien en réalité nous sommes détestables à ses yeux, lui qui a des yeux trop purs pour voir le mal. Il a voulu un peu nous choquer, nous bouleverser, Asaph. Il dit, mais tu te crois bien, tu te crois en bonne posture devant ce Dieu, tu penses avoir une bonne vie, mais on parle d'un Dieu qui est trois fois saint. Imagine ce que ce serait s'il te faisait des reproches et mettait tout devant tes yeux. C'est ça qu'Asaph veut nous faire comprendre. Je me souviens très bien, et je vous ai déjà parlé de cette expérience, d'un jour où j'ai croisé un clochard à la gare de Perrache, sur le quai du tram, et son odeur était si forte que j'ai dû m'éloigner de plusieurs mètres, je pensais que je ne pouvais plus respirer, tellement c'était atroce. Et en fait, c'est une image parfaite de notre odeur pour Dieu, de l'odeur de notre péché. C'est irrespirable. C'est dégoûtant. Et Dieu ne s'approchera pas d'un clochard qui pue, des clochards qui puent que nous sommes, parce qu'on serait, on serait immédiatement consumés par sa sainteté. Et donc Asaph, ici, il dit qu'il vaut mieux avoir les yeux ouverts sur notre péché maintenant, avant qu'il soit trop tard. Hein. Et pourquoi? Parce que là, pour l'instant, j'ai surtout parlé de mauvaises nouvelles. Hein. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir conscience de tout ça? Eh bien, quelle serait une réaction logique en ayant vraiment conscience de tout ça? En ayant vraiment conscience du caractère absolument détestable de notre péché aux yeux de Dieu? Quelle serait une conséquence logique? Eh bien, je pense que le résultat logique de cette prise de conscience, ce serait de se jeter humblement, désespérément, aux pieds de Dieu pour implorer sa clémence et lui supplier de pourvoir à notre purification et à notre délivrance, parce qu'il est le seul en mesure de le faire. Je crois que ce serait la réaction logique, non? Et si on fait cela, on découvre que Dieu a effectivement pourvu à notre délivrance, il l'a fait en Jésus, son Fils, qui est venu, qui lui s'est approché de nous, c'était Dieu, hein, mais fait homme, qui s'est incarné pour s'approcher de nous, et qui a pris notre place sur la croix, hein, pour payer le prix de nos péchés, pour en fait prendre nos vêtements souillés, les mettre sur lui et être ainsi abandonné de Dieu à notre place. Et en échange de nos vêtements souillés, il nous remet sa tunique étincelante, pure, immaculée, pour que nous puissions avoir une relation personnelle, intime, avec Dieu. En Jésus, Dieu, effectivement, tend la main au clochard que nous sommes, il nous prend même dans ses bras. Jésus nous a rendus acceptables dans la présence de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on accepterait d'échanger nos vêtements avec ceux de Jésus si on pensait qu'on n'était pas si mal que ça? Non, ça va, Jésus, merci, je me porte très bien. Vous voyez l'importance d'avoir conscience de la gravité de l'étendue de notre péché. Hein, l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 4 qu'il faut que nous... Il décrit l'attitude que nous devrions avoir, l'espèce de contrition que nous devrions avoir face à la gravité de notre péché. Il dit, menez deuil, pleurez, que votre joie se change en tristesse. Alors, à cause de notre égocentrisme, nous sous-estimons le péché dans notre vie. Et cela nous fait sous-estimer le besoin que nous avons que Dieu pourvoie à notre délivrance. Mais si nous acceptons ce que nous lisons dans la Bible, sans filtrage, sans jeter par-dessus l'épaule la moitié de ce que nous y voyons, si nous reconnaissons la sainteté parfaite de Dieu, d'une part, et d'autre part, l'extrême gravité du péché de notre vie, alors cela va nous permettre de mesurer d'autant mieux la valeur de sa grâce, de la grâce de Dieu. Et c'est uniquement, mes amis, dans la perspective de la grâce de Dieu, c'est uniquement lorsqu'on arrive à apprécier la grâce de Dieu, la lumière de la sainteté de Dieu d'une part et de notre péché d'autre part, c'est uniquement dans cette position-là que notre obéissance à Dieu sera placée dans la bonne perspective. Et j'en viens à la troisième et dernière affirmation de ce passage. C'est en veillant sur sa voie qu'on entre dans le royaume de Dieu. C'est en veillant sur sa voie qu'on entre dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, versets 22 et 23, on a la conclusion du psaume, et en fait, dans cette conclusion, on a Asaph qui récapitule finalement tout ce qu'il a dit. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu. Vous vous souvenez, la première partie du psaume, c'était « se souvenir de Dieu ». Ensuite, il dit, verset 23, « celui qui offre la reconnaissance me glorifie ». Vous vous souvenez, deuxième partie, « offrir la reconnaissance ». Et enfin, « à celui qui veille sur sa voie, je ferai contempler le salut de Dieu ». En se souvenant de Dieu, on est confronté à sa sainteté parfaite. Et on se rend compte de la mauvaise posture dans laquelle nous sommes. Dans un deuxième temps, en reconnaissant ce que Dieu a offert pour notre délivrance, nous sommes incités à lui offrir à notre tour la reconnaissance. Et troisièmement, cela nous conduit à veiller sur notre voie. Parce que notre vie va ainsi, plutôt qu'être motivée par le désir de gagner la faveur de Dieu, notre vie va être motivée par la reconnaissance à Dieu pour sa faveur. Et c'est ça qui va nous inciter à vivre une vie qui va refléter la grâce infiniment précieuse de Dieu, plutôt qu'une grâce qui ne serait pas si précieuse que ça, vous voyez. Alors, quand je fréquentais Suzanne avant nos fiançailles, il est arrivé le jour où j'ai dû acheter sa bague de fiançailles. Elle savait pas quand est-ce que ça allait arriver. Et je suis allé visiter quelques bijouteries avec sa sœur et ses parents pour voir un peu ce qu'ils pouvaient me conseiller sur les goûts de Suzanne. Alors, j'ai vu plusieurs bagues différentes, 3-4 bagues différentes. Et à votre avis, qu'est-ce qui a fini par me décider sur le choix de bague? Elles étaient toutes très jolies. Qu'est-ce qui a fini de me décider sur le choix de la bague? Eh bien, étant écossais, le prix, bien sûr. Mais figurez-vous que j'ai voulu choisir la plus chère. Parce que je ne voulais pas offrir à Suzanne la bague la moins chère. Qu'est-ce que ça aurait dit de mon amour pour elle? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis fait violence, si vous voulez. Non, je plaisante. Avec plaisir, j'ai acheté la plus chère, et qui ça m'a coûté d'ailleurs plus qu'un bras, mais bon. Imaginez ensuite, Suzanne a dit oui, hein, imaginez que le lendemain de nos fiançailles, je lui demande « Mais elle est où la bague que je t'ai offerte? Je la vois pas sur ton doigt. » « Ah, mais tu comprends Alex, en fait je l'ai rangée avec mes autres bijoux. » Je dois dire qu'elle va pas très bien avec les vêtements que je porte aujourd'hui. Imaginez ma déception, hein, et ma tristesse si c'était arrivé. Vous voyez, Dieu nous a offert aussi le plus cher. Mais est-ce que notre vie le reflète au quotidien? C'est un peu comme si Dieu nous disait, mais ils sont où les vêtements blancs immaculés que je t'ai remis en échange de tes vêtements souillés? Tu en as fait quoi? Tu les as rangés au placard? Est-ce que nous sommes disposés à porter les vêtements immaculés de Jésus? Soyez saints, nous dit l'Écriture, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alors bien sûr, je viens de vous dire longuement qu'on était remplis de péchés. Alors c'est pas possible, vous me direz. Il faut donc qu'on accepte que notre vie ne reflète pas la grâce de Dieu. On a beau avoir envie d'honorer Dieu, on n'en est pas capable puisqu'on est profondément pécheur en même temps. Vous savez, ça a été exactement la réflexion de l'apôtre Paul. Il en parle dans l'Épître aux Romains, chapitre 7 notamment, à la fin du chapitre 7. L'apôtre Paul, il n'était pas chrétien hein, au début, il était un ennemi du christianisme, un ennemi des chrétiens. Mais un jour, il a été confronté à la sainteté de Dieu, il a compris l'ampleur et l'étendue du péché dans sa vie. Il a reçu le pardon de la part de Dieu en Jésus-Christ. Et ensuite, il a commencé à avoir naturellement le désir d'obéir à Dieu. Mais après, il nous raconte cette lutte intérieure qu'il a vécue à la fin du chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Vous pourrez lire ça à t'être posé. Mais il dit, mais c'est horrible quelque part. Maintenant que je suis chrétien, j'ai envie de faire le bien, mais j'y arrive pas. Et j'ai pas envie de faire le mal, mais pourtant je fais le mal. Et qui va me délivrer de ce corps de mort, dit-il. Et ensuite il dit, mais il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et écoutez ce qu'il dit juste après, Romains chapitre 8, verset 4. Il dit, verset 3, il dit, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Dieu n'a pas seulement pourvu à notre pardon, il a aussi pourvu au moyen de lui obéir, et ça c'est la puissance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Si vous avez placé votre confiance en Jésus, sachez que Dieu a déversé dans votre vie son Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, dans votre vie. Et cette puissance est inégalable. Et elle est là pour vous aider et m'aider à marcher dans l'obéissance, à grandir dans ma foi, à grandir en sainteté. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Alors, je reviens sur mon affirmation. C'est en veillant sur sa voie qu'on entre dans le royaume de Dieu. Mais notez bien, verset 23, qu'il n'est pas dit... Verset 23, il n'est pas dit « à celui qui obéit parfaitement, je ferai contempler le salut de Dieu », il est dit « à celui qui veille sur sa voie ». Et ça, c'est une expression magnifique pour décrire, à mon avis, la façon dont le croyant doit être disposé à vouloir obéir à Dieu, celui qui veille sur sa voie. Est-ce que vous veillez sur votre voie tout simplement aujourd'hui et chaque jour? Nous sommes incapables d'obéir parfaitement à Dieu. Tous nos efforts ne nous permettront pas de gagner sa faveur. Mais le résultat d'une juste compréhension de la sainteté de Dieu et de sa grâce, c'est une volonté, un désir profond, authentique, pratiquement irrépressible, de servir Dieu, de lui obéir, de lui être fidèle. Dieu nous a manifesté son amour pour nous en Jésus, en dépit de notre péché exécrable. Il a donné le plus cher pour nous permettre de nous approcher de lui. Comment pourrions-nous maintenant nous asseoir à sa table et jeter la moitié de ce qui nous sert par-dessus l'épaule? Comment pourrions-nous recevoir une telle grâce, une grâce qui a coûté si cher à Dieu, et la ranger ensuite au fond d'un vieux tiroir ou au placard? Au contraire, notre amour pour Dieu devrait nous remplir au plus profond de nous-mêmes d'un désir de le suivre et de l'honorer dans tout ce que nous faisons, disons et pensons. Et c'est le Saint-Esprit qui, par sa puissance, va petit à petit réaliser ce désir pour nous dans notre vie. Et nous grandirons ainsi dans la foi, nous grandirons ainsi dans la fidélité à Dieu. Et ainsi, on va contempler le salut de Dieu. Non seulement au jour où nous serons glorifiés, où nous entrerons au paradis pour y être éternellement avec Dieu et tous les autres croyants, mais... dès aujourd'hui, on pourra contempler le salut de Dieu, l'établissement de son royaume, déjà dans notre vie personnelle, dans toutes les dimensions de notre vie, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, et dans le monde qui nous entoure même, à travers notre témoignage. Alors, je veux terminer rapidement, parce que j'étais un peu long. Mais il y a une chose intéressante que Billy Graham a dite concernant le réveil. Vous savez, beaucoup de chrétiens espèrent le réveil, une période où beaucoup de gens vont se convertir à Jésus, et intégrer les églises, et il y aura une vraie vitalité dans les églises. Et Billy Graham a dit une chose là-dessus, sur cette question du réveil. Il a dit que d'après lui, pour qu'il y ait un réveil quelque part, il s'attendait à voir deux choses au préalable. D'abord, il s'attendait à voir chez les chrétiens une compréhension renouvelée de la sainteté de Dieu. Premièrement, une compréhension renouvelée de la sainteté de Dieu. Et la deuxième chose qu'il s'attendait à voir avant un réveil, c'est toujours chez les chrétiens, une compréhension renouvelée de la gravité du péché. C'est deux choses, une compréhension renouvelée de la sainteté de Dieu et une compréhension renouvelée de la gravité du péché. Donc c'est pas par hasard que le psalmiste nous dit dans ce psaume, à nous qui nous demandions depuis 3 semaines, qu'est-ce que ça veut dire adorer pour de vrai? C'est pas hasard qu'il nous dise que d'abord, il faut que nous nous souvenions de qui est Dieu. Ensuite, nous rendre compte de la valeur inouïe de sa grâce et par conséquent lui être reconnaissant. Et enfin, veiller sur notre voie. Et donc, comme je le disais ces deux dernières semaines, qu'est-ce que ça changerait à notre vie si chaque jour, on se levait et on plaçait la journée dans cette perspective-là, en prenant le temps de se souvenir de qui est Dieu, de lui offrir notre reconnaissance pour sa grâce qui a été si coûteuse. Et troisièmement, si nous étions ainsi incités à veiller sur notre voie. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans notre culte, c'est à peu près ce qu'on fait habituellement? On prend un premier temps, un premier texte pour nous replacer devant qui est Dieu dans le culte. C'est souvent le texte d'ouverture. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a toujours un texte qu'on appelle un texte de loi, qui nous replace devant les exigences de Dieu. Mince, on n'est pas en très bonne posture. Et ensuite, on a un texte de grâce qui nous rappelle le prix qui a été payé par Dieu pour notre délivrance. Et ensuite, on a un temps de louange où nous offrons notre reconnaissance à Dieu. Et ensuite vient le temps d'instruction, où nous sommes appelés, invités à veiller sur notre voie. Permettez-moi juste de finir avec ces deux versets de la deuxième épître de Pierre, où il nous décrit, il fait allusion, je dirais, à cette mystérieuse collaboration entre la grâce de Dieu qui est souveraine, qui est exercée souverainement dans notre vie, et en même temps, en plus de la souveraineté de Dieu, notre réponse de foi qui consiste à veiller sur notre voie. Voilà ce qu'il dit. Il dit, frère, efforcez-vous d'affermir votre vocation et votre élection, grâce souveraine de Dieu. Pourtant, efforcez-vous de l'affermir. Et il dit, en le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.